sur notre page Facebook VOA.
Il est 15h ici à Washington DC. Eric Manelakiza avec vous. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Vous suivez VOA Afrique. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu avec près de 95% des voix lors de l'élection présidentielle de samedi en Algérie. Un scrutin toutefois marqué par une participation jugée faible face au président sortant. Seuls deux candidats étaient en lice, Abdelhari Hassani, un ingénieur de 57 ans, chef du mouvement de la Société pour la paix MSP, principal parti islamiste, et Youssef Aouchiche, 41 ans, ex-journaliste et sénateur à la tête du Front des Forces Socialistes, FFS, plus vieux parti d'opposition. La direction de campagne du candidat Hassani a dénoncé dimanche des violations et un retour à des pratiques anciennes, avec des pressions sur certains responsables de bureaux de vote pour gonfler les résultats, notamment la participation. Un membre du parti d'opposition tanzanien Chadema a été retrouvé mort après avoir été kidnappé par des hommes armés soupçonnés d'être des agents de sécurité, a annoncé ce dimanche le parti Ali Mohamed Kibao. Un membre du secrétariat national du parti a été forcé de descendre d'un bus sous la menace d'une arme vendredi, tandis qu'il se rendait de Dar es Salaam à Tanga, sur la côte nord du pays, avait annoncé samedi à la presse John Nika, le secrétaire général du parti. Le corps de M. Kibao a été retrouvé dans le quartier de Ounoniyo à Dar es Salaam samedi soir, a affirmé un membre de Chadema, Boniface Jacob sur X. La diplomatie soudanaise a dénoncé un récent rapport d'experts de l'ONU appelant au déploiement d'une force impartiale de protection des civils, qualifiant le Conseil des droits de l'homme d'organe politique illégal. Dans un communiqué publié samedi soir, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement soudanais rejette en bloc les recommandations de la mission onusienne qu'il qualifie de violation flagrante de son mandat. Les experts onusiens avaient appelé vendredi à un déploiement immédiat d'une force indépendante et impartiale pour assurer la protection des civils, affirmant que des crimes de guerre et crimes contre l'humanité avaient été commis au Soudan. Kamala Harris et Donald Trump se retrouvent mardi pour débattre à Philadelphie, dans l'état décisif de Pennsylvanie, dans l'Est américain. La vice-présidente et l'ancien président ferraillent à distance depuis que la première est entrée dans la course après le retrait le 21 juillet de Joe Biden. Mais la démocrate, retranchée depuis jeudi dans un hôtel de Pittsburgh pour se préparer, et le républicain, qui a au contraire multiplié les apparitions publiques ces derniers jours, ne se sont jamais rencontrés en personne. Leur duel de 90 minutes, qui sera diffusé par la chaîne ABC à partir de 21h locale, pourrait être le seul. Aucun autre débat n'est pour l'heure prévu avant le scrutin du 5 novembre. À Philadelphie, le temps de parole sera strictement limité et il n'y aura ni notes ni public. Seul le micro du candidat qui parle sera ouvert. L'administration du président Joe Biden continue à espérer la signature d'un accord de cessez-le-feu à Gaza après des semaines d'efforts infructueux. Washington a affirmé cette semaine qu'un accord de cessez-le-feu était approuvé à 90%. Parmi les points d'achoppement figure notamment la volonté de M. Netanyahou, le premier ministre israélien, de conserver un contrôle israélien sur le couloir de Philadelphie, zone tampon le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Les médiateurs américains travaillent sur un accord déterminant quand et d'où les forces israéliennes doivent se retirer, tout en veillant aussi à préserver les intérêts de l'Égypte. Le pape François a présidé ce dimanche devant 35 000 fidèles une messe en plein air géante à Port-Moresby, capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où sa visite de 3 jours suscite une grande ferveur. Dans l'après-midi, le jésuite argentin de 87 ans, qui effectue une tournée marathon dans 4 pays d'Asie et d'Océanie, a fait un aller-retour éclair à Vanimo, commune reculée à l'extrême nord-est située entre l'océan et la frontière indonésienne. Plus de 80% de la population du pays vit dans des villages en suivant des rites ancestraux dont certains sont transmis de génération en génération depuis des siècles.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manela qui est avec vous au micro. Georges et Léonard Sagnon assurent la réalisation. Et merci d'écouter VOA Afrique. Ce soir, nous parlons des enjeux et défis du pape François en Asie du Sud-Est et Océanie. Le pape François a appelé à Jakarta à renforcer le dialogue interreligieux pour contrecarrer l'extrémisme et l'intolérance en ouverture de sa tournée marathon en Asie-Pacifique. Ce périple de 12 jours, le plus long de son pontificat, le menera également en Océanie et doit visiter au total 4 pays marqués par des contrastes religieux, sociaux et économiques dans une région où l'Église catholique connaît une expansion remarquable. Quelles sont les attentes pour ce voyage? Comment le pape entend-il naviguer ces défis tout en renforçant le rôle de l'Église dans ces régions du monde? Nous en parlons dans un instant avec notre invité. Nous sommes en ligne avec le père Grégor Prichotko, originaire du Kazakhstan. Il est docteur en droit canonique de l'université Paris-Sud-Saclay et rattaché au laboratoire droit et société religieuse. Bonsoir mon père.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Bienvenue encore une fois dans le dialogue des religions. Quel est l'impact symbolique du choix de ces 4 pays pour le plus long voyage du pape François?
Effectivement, comme vous venez de le mentionner, le plus long voyage du pape François, donc dans les pays d'Asie qui sont très différents entre eux. Pour comprendre justement son intention, je crois qu'il est nécessaire un petit peu de revenir en arrière, de voir comment ces voyages apostoliques ont été initiés par Paul VI, parce que c'était le premier pape après Pie VII qui a eu cette idée de sortir de l'Italie pour pouvoir effectuer ces voyages, qui sont appelés justement les voyages apostoliques ou les visites pastoraux. Et quelquefois, quand il s'agit des catholiques qui sont bien présents dans certains pays. Donc, nous savons que le pape Paul VI a initié une vaste vague de visites pastorales. Et il a fait 9 visites à l'étranger. C'était pour la première fois, une grande première, qui a changé toute la pratique diplomatique pour le Vatican. Parce qu'avant, les papes restaient en Italie, donc sortaient vraiment, ne sortaient pratiquement pas depuis le XVIIe siècle. Je crois que cette pratique est devenue tellement importante surtout pour les communautés qui sont minoritaires dans certains pays. L'encouragement de chefs de l'Église catholique apporte vraiment quelque chose de très 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 important à la vie de ces communautés qui deviennent des communautés missionnaires et non pas tout simplement des minorités dans des sociétés de nos jours. Voilà, donc il faut rappeler aussi que Jean-Paul II, durant les 26 ans de son pontificat, effectua 104 visites pastorales. Benoît XVI en a fait 25. Et pour le pape François, ce voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Indonésie, Timor-Oriental et Singapour est le 45e voyage apostolique. Donc, il faut dire que pour ce voyage, bien évidemment, qui était préparé depuis longtemps, il y a à la fois la coïncidence, parce qu'il y a eu un voyage qu'il fallait rapporter. Le pape devait se rendre en Indonésie à l'occasion de la journée de la jeunesse asiatique. Donc déjà, le 3 février 2020, voilà. Le voyage a été annoncé, mais comme nous le savons, la pandémie a empêché plusieurs choses dans le monde, notamment ce voyage qui était très important pour la conférence des évêques indonésiens. Et le voyage donc a été rapporté tout simplement à cause de la pandémie. Ensuite, quand le voyage du pape a été annoncé en 2024 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, du coup, on a inclus ce voyage rapporté en Indonésie, Timor-Oriental et Singapour. Pourquoi ces quatre pays? Parce que je crois que, justement, leur composition ethnique, religieuse, leur histoire particulière, chacun à ces pays, a fait en sorte que ça représente la diversité la plus totale des religions et des populations dans leur contexte historique et qui doivent cohabiter maintenant ensemble. C'est vraiment très intéressant. L'Indonésie, qui est le pays le plus musulman du monde au sens de la quantité des personnes qui confessent cette religion, jusqu'à Timor oriental, qui est le pays, disons, un des plus catholiques de l'extrême-orient. Papouasie-Nouvelle-Guinée, marquée par sa diversité ethnique extraordinaire, et puis Singapour, par sa singularité vraiment de son développement fulminant au cours de cette dernière décennie. Je crois que c'est cela qui a été visé par le pape pour pouvoir voir cette diversité.
Et comment le Saint-Père aborde-t-il les tensions religieuses, notamment en Indonésie, où des minorités chrétiennes font face à des discriminations croissantes?
Exactement. C'est un facteur inquiétant, puisque l'Indonésie, depuis son indépendance, a été toujours marquée par la tolérance religieuse. Même si la grande partie de la population, la majorité absolue, donc sont adeptes de l'islam, quand même, elle n'a pas fait des persécutions contre d'autres religions. Nous savons que la religion chrétienne, par exemple, est présente depuis le 7e siècle sur ces îles, même s'il ne semble pas être maintenu au cours des siècles, et les missionnaires sont arrivés avec les Européens au 16e, 17e siècle. Mais le premier principe qui constitue l'idéologie de l'État indonésien et la croyance en Dieu unique. Bon, quand même, on peut dire que l'hindouisme donc n'est pas monothéiste, mais le gouvernement indonésien reconnaît néanmoins six religions officielles. L'islam, le protestantisme, l'église catholique, l'hindouisme, le bouddhisme et le confucianisme. Donc l'article 29 de la Constitution de ce pays, donc de 1945, garantit la liberté de culte et n'accorde de présence à aucune religion. Donc on peut dire que c'est un pays, on ne peut pas dire que c'est vraiment un pays laïque, mais parce qu'il y a le principe de la croyance en Dieu unique dans l'idéologie de l'État indonésien, mais quand même qui est respectueux de toutes les religions. Et c'est pour cela que l'effet de discrimination, c'est très inquiétant pour un pays qui a su depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui à maintenir l'ordre, à maintenir la coexistence de toutes les religions sans aucune discrimination selon le principe, disons, ethnique ou religieux jusqu'à maintenant. Donc je crois que la visite de pape peut-être pourra aussi apporter une signification particulière et dire qu'il faut maintenir ce principe, sinon des problèmes peuvent surgir comme nous les connaissons un petit peu partout dans le monde, avec notamment l'islam radical, avec les discriminations sur la base religieuse qui détruisent la stabilité d'un État.
Le dialogue interreligieux, en particulier à Jakarta, est un des points centraux de ce voyage. Quels résultats concrets peuvent être attendus de la rencontre entre le pape et le grand imam à la mosquée Istiqlal?
Le Saint-Père devrait rencontrer de manière, je dirais, obligatoire le grand imam de la mosquée Istiqlal, parce que la population de l'Indonésie est en majorité musulmane, ce qui fait sa particularité. Contrairement à quelques autres pays, le code de loi ne se réfère pas explicitement à la charia, à la loi islamique. L'Indonésie est un exemple dans certains sécularismes, mais dans le sens positif, réussi, incluant l'islam et les autres religions. L'Indonésie prône un islam qui épouse les valeurs de respect et d'ouverture, ce qui est une chance pour ce pays. Et la religion est considérée comme une affaire personnelle et n'est pas envisagée comme enjeu politique. Donc c'est une saine séparation entre la profession, la liberté religieuse, donc les religions qui ont toute leur liberté à exercer le culte dans ce pays et entre la législation civile. Nous savons que les catholiques sont très minoritaires dans ce pays, ils ne constituent que 3,6% de la population. Et je crois que la visite du pape, et je peux le vraiment attester sur mon expérience personnelle quand Jean-Paul II est venu au Kazakhstan, où les catholiques également font peut-être un demi-pourcent de toute la population, que ça a eu un grand impact. Parce que les communautés locales se sont soutenues, ne se sont pas oubliées, et que cette visite entre vraiment dans, le développement d'un contexte diplomatique et de cette méthodologie qui aidera ensuite à ces communautés et peut-être certains dirigeants politiques et religieux à ne pas entrer dans la discrimination, à ne pas entrer dans le mépris de l'autre à cause de la religion et maintenir cette intégralité, cette paix et le respect de tous.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée est marquée par des défis environnementaux importants. Quel rôle l'Église peut-elle jouer dans la sensibilisation et la lutte contre la déforestation et les catastrophes naturelles ?
Dimanche dernier, toute l'Église catholique méditait et priait le Seigneur pour la création, justement pour cette nature qui nous est donnée, que nous avons héritée de nos ancêtres et que nous avons à transmettre à ceux qui viendront après nous, en garantissant l'écologie qui fait partie, de la vitalité de la société actuelle. Donc effectivement, la population de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est l'une des plus hétérogènes au monde. Le pays compte plusieurs centaines de groupes ethniques et nous savons que le composant religieux est aussi important. La majorité est formée par les différentes églises protestantes et à peu près 64% de la population. L'Église catholique occupe 26% de toute cette population, entre autres religions qui sont présentes. Nature riche dans sa biodiversité, avec les espèces endémiques qui sont vraiment très importantes le patrimoine naturel mondial, est menacée actuellement, notamment par l'exploitation des ressources naturelles. On sait que les gisements de gaz naturel ont été découverts en 2010 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, c'est un enjeu entre les grandes entreprises qui veulent explorer ces ressources, bien évidemment, mais quelles conséquences va cela porter sur la nature. D'autre part, il ne faut pas oublier que l'agriculture toujours constitue une partie essentielle de l'économie de ce pays. Comment jongler sur ces enjeux pour préserver la nature et faire à la fois développer le pays? Je crois que l'Église a son mot à dire, toujours, en prenant le respect de la création et en trouvant, peut-être en aidant à trouver les solutions qui pouvaient consoler le besoin économique de ce pays, mais aussi la préservation de la nature, qui est une richesse et un trésor pour la communauté mondiale.
Vous êtes dans le dialogue des religions, Eric Manilakiza, en votre compagnie. Nous revenons dans un instant pour continuer notre discussion sur les enjeux et les défis du pape François en Asie, du Sud-Est et Océanie. Nous sommes toujours en ligne avec notre invité, le père Grégor Prichotko, originaire du Kazakhstan. Père Grégoire, le Timor oriental est l'un des pays les plus catholiques au monde, mais il est aussi marqué par des scandales de violences sexuelles au sein de l'Église. Comment aborder ces questions sensibles tout en maintenant la foi des fidèles?
Oui, effectivement, le Timor oriental est l'un des deux seuls pays à dominante catholique en Asie, avec les Philippines. Et donc, la composition religieuse de ce pays est très marquée par la présence de l'Église catholique. Il y a 97% qui se déclarent catholiques. L'islam, donc, occupe juste 1% de la population, et puis il y a les protestants, les églises protestantes qui forment 1%, et d'autres minorités qui coexistent. Effectivement, pour ce pays qui est catholique, les révélations récentes concernant l'ancien archevêque émérite, quelqu'un qui était très considéré dans le pays comme le chef spirituel de tous les catholiques. Il faut dire que cet archevêque a reçu le prix Nobel de la paix en 1983. Quand même, c'était une personnalité vraiment importante, une figure emblématique de l'Église catholique de ce pays. Et finalement, les abus qui ont été révélés et ont produit des sanctions de la part de son siège à son égard l'année dernière, et l'enquête continue encore grâce aux témoignages des différentes victimes. Comment, justement, en ce moment-là, quand l'Église se sent quelque chose, non pas décimée, mais en tout cas blessée en sa tête, ça doit être très douloureux pour les habitants de ce pays. Je crois que la visite de pape est très importante dans le sens que le pape veut rétablir la confiance en l'Église en montrant que l'Église est toujours à côté des victimes, suivant le principe qu'un péché dans l'Église n'est pas un péché de l'Église, mais un péché contre l'Église. Et quand les personnes qui occupent des charges importantes sont des personnes criminelles, cela blesse deux fois les communautés. Par conséquent, je crois que le message de pape va aller dans ce sens, de dire que c'est seul le Christ qui est le modèle, on suit Jésus-Christ, que malheureusement, dans l'Église, on peut avoir une charge très importante, mais rester un pécheur et même contribuer à salissement de l'image de ce message que l'Église doit porter, d'être l'annonciatrice de l'espérance, d'être l'annonciatrice de l'amour de Dieu, et non pas un lieu rempli des crimes, comme malheureusement ce pays vient de voir en la personne de son ancien archevêque.
Et en quoi ce voyage reflète-t-il la mission évangélique du pape François, notamment en ce qui concerne l'évangélisation des périphériques qu'il évoque souvent?
Oui, ce voyage s'inscrit complètement dans la mission apostolique du successeur de Pierre. Quand nous avons vu les grands voyages effectués par les papes précédents, par Paul VI, qui se rencontre avec le patriarche Athénagoras, et tous les deux, ils ont brûlé les excommunications jetées proférées par l'Église latine contre l'Église de Constantinople et vice-versa. Donc, il y a des points marquants de l'histoire que nous vivons dans ces voyages. Je crois que le pape François veut montrer que l'Église pense à tous les chrétiens du monde, même aux communautés les plus petites, qui sont aussi importantes que les grandes communautés et peut-être ont encore besoin encore plus de courage pour pouvoir devenir des communautés missionnaires. Non pas juste des petites communautés qui restent entre eux, mais des communautés qui puissent évangéliser les sociétés dans lesquelles ils se trouvent et montrer le visage aimant du Christ, de vivre cette foi agissante en apportant tout ce qui concerne l'aide sociale, en montrant la charité chrétienne et en ouvrant les portes de l'Église à ceux qui cherchent Dieu avec droiture.
Et la visite du pape à Singapour, une cité état avec une minorité catholique, pour vous donc, s'inscrit, c'est un signe de l'importance croissante des petites communautés dans la stratégie d'évangélisation de l'Église.
Je dirais que c'est tout à fait le cas. Donner du courage aux plus petites communautés et les confirmer dans leur mission d'évangélisation est très important pour les successeurs de Pierre. Je me souviens de voyage apostolique de Jean-Paul II en Asie centrale, au Kazakhstan, justement où j'étais à l'époque en tant que prêtre, et combien importante c'était cette visite pour les personnes qui étaient là, dont la plupart étaient des déportés de l'époque stalinienne, des survécus, des survivants, et qui dans la figure du pape, vous voyez un grand réconfort. C'est le chef visible de l'Église lui-même qui vient pour nous confirmer, qui vient pour nous donner le courage, pour nous inciter à être des missionnaires, pour nous inciter à vivre en chrétien pleinement, sans avoir peur.
Alors, avec la santé fragile du pape François, qui a 87 ans, son voyage peut sembler ambitieux. Comment l'Église justifie-t-elle l'importance de ses déplacements malgré les défis physiques pour le pape François ?
Exactement, d'autant plus que nous savons qu'il y a une longue liste d'autres voyages qui sont dans la perspective. Le pape n'est pas une personne privée. C'est un symbole de l'unité de l'Église et de la sollicitude du successeur de Pierre en faveur des plus petits. On a vu cela à travers les voyages apostoliques de Saint Jean-Paul II, n'est-ce pas, qui vraiment, dans sa, en ayant sa santé déjà très diminuée et sa maladie très avancée, continuait jusqu'au bout visiter les communautés catholiques les plus éloignées et quelquefois très minoritaires. Et on voit que la mission n'est pas finie. À son retour de voyage dans les pays asiatiques, d'autres voyages pour le pape François sont prévus. Le prochain sera en Belgique et au Luxembourg à la fin du mois de septembre. Puis il y a l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil qui sont en vue. La Corée du Sud en 2027. Il y a d'autres projets aussi qui émergent, tels que la visite en Ukraine, qui est toujours malheureusement victime de cette terrible guerre, au Nigeria et même en Chine, ce qui serait une première extraordinaire. Je crois que le pape François, même avec sa santé qui devient de plus en plus fragile, veut montrer que le père n'abandonne jamais sa famille, même si la famille est loin, que le père, il va voir ses enfants pour les encourager, pour le soutenir et pour prier avec eux.
En quelques secondes, pensez-vous que la mission du pape est-elle facile en ce moment, naviguer ces défis tout en renforçant le rôle de l'Église dans ces régions du monde?
Je crois que sa mission est extrêmement difficile. Personnellement, en tant que si nous prenons le pape François en tant qu'une personne âgée qui vit aussi sa croix tous les jours dans ses maladies, mais je crois qu'il offre tout cela. Et ces voyages sont un petit peu, même pas un petit peu, mais vraiment le fruit de son sacrifice pour l'Église. Je crois que c'est un témoignage important que dans tous les États, nous pouvons être des témoins de notre mission, des témoins de notre vocation, pour nous tous.
Merci, Père Grégoire. Le voyage du pape François en Asie du Sud-Est et en Océanie est bien plus qu'une simple tournée apostolique. C'est un témoignage vivant de l'engagement du Saint-Siège à promouvoir le dialogue, à défendre les valeurs universelles et à soutenir les communautés catholiques, même dans les régions les plus éloignées. Alors que l'Église continue de grandir dans ces terres contrastées, ce voyage sera sans doute un test de résilience, de foi et de leadership pour le Saint-Père, tout en réaffirmant la présence de l'Église sur les périphéries de notre monde. Merci beaucoup au Père Grégoire Prichotko, originaire du Kazakhstan. Il est docteur en droit canonique de l'Université Paris-Sud-Saclay, rattaché au laboratoire droit et société religieuse. Merci beaucoup, mon père. Eric Manelakiza a été avec vous. Georges Léonard Sagnot a assuré la réalisation de cette édition de Dialogue des religions qui parlait des enjeux et défis du pape François en Asie du Sud-Est et Océanie. Je vous souhaite une agréable soirée et à la prochaine. À très bientôt.